Radio Grenouille s'est rendue entre le 16 et le 21 mai dernier à l'Anapoule, près de Cannes, où se tenait la 62e édition du prestigieux Festival international de films. C'est donc à quelques pas de la Croisette, et plus précisément dans un lieu magnifique, le Château des Mineurs, que nous avons posé nos micros pour rendre compte d'un autre événement cinématographique en marge du Festival de Cannes, qui signait là sa 7e édition, le Festival Vision Sociale. Ce festival est né à l'initiative de la CCAS-EDF-GDF, l'un des plus importants comités d'entreprise de France, qui depuis plus de 40 ans impulse une action culturelle de dimension nationale. Partenaire de nombreux festivals de cinéma, la politique de soutien actif au 7e art de la CCAS prône la diversité en valorisant le cinéma d'auteur et les jeunes réalisateurs. Son objectif premier est de permettre aux 700 000 électriciens et gaziers et à leurs familles, mais pas seulement, de voir le cinéma autrement. La programmation de cet événement, marrainée cette année par l'actrice et réalisatrice Yolande Moreau, comprenait une sélection de 22 films de fiction et documentaires français et étrangers autour de valeurs telles que la dignité, l'humanisme et l'émancipation de l'être humain. Ainsi, durant 9 jours, les spectateurs ont pu découvrir des œuvres privilégiant la liberté de création et l'originalité des regards, avec pour cette édition une place importante donnée à la culture latino-américaine, et pour la première fois, une sélection de courts-métrages proposés par le GREC, groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Les partenaires du festival, la CID, Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, la quinzaine des réalisateurs, la Semaine internationale de la critique, le Festival de Cannes, Un certain regard, ainsi que le Festival des trois continents de Nantes ont enrichi la programmation de certains de leurs films inédits présentés à Cannes 62e édition et repris à Vision Sociale. Entre les projections, se sont glissées des rencontres avec les équipes de films proposées le soir, des échanges avec les partenaires, des discussions avec des professionnels autour des métiers du cinéma pour la construction d'une société plus juste. Vision Sociale a également proposé une exposition d'art plastique signée par Gilles Porte et Juliette Robert. Une exposition de diptyques, dessins et photos intitulée « Cyrine, Ibrahim, Malo, Valentin et tous les autres ». Vision Sociale, qui s'adresse aux ayants droit des comités d'entreprise, est également ouvert aux spectateurs qui ne pensent ni à l'audimat, ni à la rentabilité, mais qui se soucient davantage de liberté, d'ouverture et de lien social. La grenouille a donc sauté d'un bond d'un seul vers la Napoule pour vous permettre de découvrir quelques moments choisis de cette 7e édition. Bienvenue au festival Vision Sociale. Entretien avec les maîtres d'œuvre pour la CCAS-EDF-GDF de Vision Sociale, Josette Pellissier, présidente de la commission d'activité régionale CCAS-PACA, et Fior Dascoli, présidente de la commission nationale CCAS d'action culturelle. Extrait de cette rencontre.
Propriétaire du château de la Napoule. Voilà, c'est pour en même temps rassembler des travailleurs de différentes entreprises pour que, bon, ben, y a les films à voir, mais en même temps, je crois que ça crée un échange et une dynamique voilà, qui est très importante pour eux et pour nous.
Peut-être important de préciser aussi que même si vous accueillez évidemment ici au château de la Napoule dans un lieu absolument magnifique, des gens venus des CE, toutes vos programmations sont d'abord gratuites, elles sont libres et n'importe qui peut y venir.
Oui, effectivement, bon, c'est la volonté de, en priorité de la CCAS de montrer, je dirais, la culture avec un grand C à l'ensemble du citoyen lambda, avec bien sûr une priorité pour les bénéficiaires de l'ensemble des comités d'entreprise. Je pense que la salle de la Napoule peut accueillir les Canois ou les vacanciers qui sont sur la Napoule et Cannes et ses environs.
ce désir manifeste de collaboration, à mon avis, tombe sous le sens, bien sûr, mais c'est quand même pas évident. Hein. Je pense que toute l'année, vous devez beaucoup travailler à cela. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez monté l'ensemble de ces partenariats ?
Oui, je crois que cette relation avec les partenaires que vous venez de citer témoigne de notre volonté d'être toujours présent au cœur du Festival de Cannes. Donc on est ici à l'Anapool pour Vision Sociale parce que ça nous permet effectivement d'accueillir du monde de façon un peu plus détendue, mais on reste présent à Cannes au travers des partenariats, ce qui nous permet d'une part de bénéficier d'une programmation potentielle des films qui sont également diffusés à Cannes, mais d'autre part qui permet également aux gens qui sont affectés au séjour Vision Sociale de pouvoir aller voir les films d'un certain regard, de la quinzaine, etc. Mais ce que nous permet aussi ce type de partenariat, c'est aussi de soutenir ces institutions-là qui ont besoin de soutien, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un phénomène de diminution de subventions, notamment du gouvernement, à destination de ces institutions-là. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de les soutenir parce qu'elles nous permettent à nous de pouvoir rencontrer un autre cinéma. S'il n'était pas soutenu aujourd'hui, on ne pourrait pas programmer ce type de film chez nous. Mais deuxièmement, c'est aussi grâce à eux que tout au long de l'année, par exemple avec l'ACID, nous développons programmations dans les cinémas, dans la région parisienne, à Agen, à Douai et ailleurs, des rencontres avec des réalisateurs, des films. Et c'est vraiment, au-delà de l'événement, c'est vraiment ça qui nous guide. C'est l'événement crée l'aspect, phare. De l'action cinématographique, mais c'est tout le reste qui est important. Et avec l'ACID, avec la quinzaine, nous avons par exemple mené, développé depuis l'année dernière des rendez-vous qui s'appellent Ciné-Rebond. Donc c'est la programmation de l'ACID, par exemple, ou de la quinzaine, de la SRF, pardon, qui sont programmées dans d'autres centres de vacances et qui permettent à des gens qui n'ont pas pu venir ici à Cannes de voir également cette programmation. Voilà, ce travail-là, il est important, Cannes restant le phare, mais c'est tout le reste du temps qui est important.
Vous avez tous les ans un parrain ou une marraine. Cette année, Yolande Moreau, qui va arriver, je crois, samedi.
Vendredi,
que nous n'aurons pas l'occasion de rencontrer. Pourquoi ce choix d'avoir un parrainage ou un marrainage de votre événement ?
Je crois que les différents parrains ou marraines qui sont succédés, Benex, Agnès Varda, Abderrahmane Sissako, sont toutes et tous des réalisateurs ou des acteurs, actrices, qui ont fait le choix de faire du cinéma ou de jouer dans des films qui touchent aux questions de société, qui touchent au regard qu'ils portent sur le monde, et c'est autant de questionnements et de réflexions qu'ils suscitent. Donc c'est cette dimension humaine qui nous a guidés à des choix de parrains ou de marraines, ce qui permet de donner aussi quelque part matière, puisque la présence physique est importante. Et au-delà simplement du regard qu'on peut avoir sur le film, sur un film, il nous semble important de rencontrer physiquement un certain nombre de personnes. Et là, en l'occurrence, avoir un parrain ou une marraine, ça permet de donner une dimension humaine au 7e art, mais aussi... faut aussi le dire comme ça, comme d'ailleurs le travail que vous faites, vous, Radio Grenouille, en diffusant des émissions sur les questions sur Vision Sociale ou d'autres de radios qui diffusent, c'est que un parrain ou une marraine de la dimension de Yolande Moreau, par exemple, cette année, qui vient d'être césarisée, c'est aussi un formidable écho médiatique pour Vision Sociale. Donc c'est aussi ça que nous essayons de faire, qu'on parle de nous. Pas pour parler de nous, mais pour dire qu'il existe aussi des choses faites par le monde du travail à Cannes, qui, ne l'oublions pas, le festival est né du Front populaire, du mouvement syndical, parce que c'est l'origine du Festival de Cannes, c'est bien ça.
Alors Josette, il y a eu quelque chose aussi cette année, une première, beaucoup appréciée, puisque la salle était vraiment pleine, ça a été la rencontre avec le cinéma, le court-métrage. Vous avez invité de jeunes réalisateurs et réalisatrices, je crois qu'ils étaient quatre à être présents lors de cette magnifique séance où on a pu voir 8 courts-métrages, mais vraiment, évidemment, dans des factures très différentes, racontant des histoires très différentes. Vous pouvez m'en dire un petit mot sur ça, sur ce choix-là ?
Oui, alors c'est une première fois que nous avons un partenariat avec le Grec, hein, et nous avons voulu montrer peut-être ce que, bon, par les courts-métrages, ce que les gens ont perdu l'habitude de voir, parce que bon, mais quand on va voir un film, il y a le film directement, il n'y a plus effectivement ce qu'avant on avait, des courts-métrages. Et je crois qu'on a voulu volontairement ne pas oublier cette catégorie de films. Et je crois que ça a été effectivement très apprécié. Et pour un essai, ça a été un essai réussi. Je pense que ce sera quelque chose qui sera renouvelé, bon, peut-être adapté aussi, voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, moi, j'engage vivement les auditeurs de la radio marseillaise, La Grenouille, à venir l'an prochain à Cannes en 2010 pour la 8e édition du festival Vision Sociale qui se déroule, je le rappelle, à la Napoule. Merci beaucoup, Josette. Merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir et de nous avoir parlé de ce festival. À très bientôt. Merci.
Merci.
Samedi 16 mai, 15h, ouverture de Vision Sociale. La salle est comble pour accueillir Luc Joulet et Sébastien Jousse, réalisateurs de leur long-métrage documentaire « Cheminots ». Soulignons que la réalisation de ce film a été majoritairement produite par le comité d'entreprise des cheminots PACA, avec un soutien de la région PACA. C'est en présence d'ailleurs de Jean-Marc Coppola, vice-président de la région, que Jacques Mollenmeyer, responsable du CO Cheminot PACA, s'adresse au public et évoque l'engagement de ce CE à la création de cette œuvre documentaire. Extrait.
En particulier de faire l'ouverture de ce festival. Notre CE est partenaire de Vision Sociale depuis plusieurs années parce que nous tenons, parmi nos activités culturelles, à promouvoir un autre cinéma, le cinéma social, le cinéma d'art et d'essai, et qu'un événement comme Vision Sociale s'inscrit parfaitement dans la démarche culturelle que nous développons. Un autre volet de la démarche culturelle que nous développons, c'est la pratique des résidences d'artistes. Nous avons accueilli des metteurs en scène, des photographes, des musiciens, depuis que les CE cheminots existent, et les CE sont arrivés tardivement à la SNCF. La volonté de faire ce film, ça a été avant tout de continuer dans cette démarche de pratiquer les résidences d'artistes pour favoriser le monde de la création et la rencontre du monde de la création et du monde du travail, comme tu le disais. Et parce qu'à travers ça, on a vraiment un enrichissement des uns et des autres, et on arrive à faire ressortir des éléments de réflexion, des éléments de connaissance que nous, sans doute, à l'intérieur de notre entreprise, ne saurions pas faire ressortir parce que simplement nous sommes vraiment au quotidien et bien souvent dans la technique.
La salle s'éteint, le film commence.
Le train devient un marché. Qu'est-ce que cela change dans le travail ? Dans la manière de considérer ce travail ? Qu'est-ce que cela change aussi pour nous, les voyageurs ? Le mot cheminot ne désigne pas un métier précis, plutôt un attachement à son travail. Il traduit le sentiment d'appartenir à une communauté. Il réunit ceux qui font rouler les trains. Cheminot parle aussi d'un lien avec la société tout entière. Dans le film des Frères Lumière, un train entre dans le champ vide de la gare de La Ciotat. Le train met la société en mouvement.
Tu sais, 141, à mon avis, à Nice, il est mort. Parce que là, tout le temps, on risque d'avoir les portes qui ne ferment plus.
Moi, je me regardais si l'arrière-scénario. Quand un train circule, il faut 4 paramètres. C'est-à-dire qu'il faut un conducteur, il faut le matériel, un contrôleur, un sillon, c'est-à-dire un horaire de départ avec une desserte et un horaire d'arrivée.
138.
Un matériel qui tombe pour en moyenne 5-6 trains. Donc si le premier ne peut plus être réutilisé, ce matériel-là, ça va nous impacter 4 voire 5 trains derrière. Donc il faut absolument retrouver du matériel. Si on n'en retrouve pas, eh bien, il faut composer avec ce qui roule.
Est-ce qu'on peut mettre une demi-heure au 17-484?
Il m'est revenu cet esprit comme au tout début. Dans un triage, un train il est formé, par téléphone on te le donne à la visite, c'est toi qui vas t'assurer qu'il peut partir en sécurité. Mais dans ta tête, plus ou moins consciemment, tu te dis, il ne faut pas que je fasse là, parce que le train il va embrancher les voies principales, il va croiser les trains de voyageurs, avec des femmes, des enfants et qui tu veux dedans, il ne faut pas que le train il change de rail.
Bonjour, vous venez de voir le film de Luc et de Sébastien. Quelles sont vos premières impressions sur ce film Cheminot ?
Ben, c'est la réalité du terrain hein, que l'on vit tous les jours. Ben, pour moi, c'est une décadence qu'on vit en France de la SNCF. Hein, donc il faut se mobiliser. Hein. Et Raymond Aubrac avait parfaitement raison. Hein, le capitalisme prend ses droits.
Et vous, alors, en tant qu'ancien cheminot, vous avez rencontré peut-être là, dans ce film, des visages connus, des amis lointains, près ou proches?
Non, j'étais en région parisienne, donc je n'ai pas connu des gens rentrés de là, mais le travail, oui, je le connais, oui. Et le fait de partager tout en fret, tout ça, là, c'est une bêtise énorme, parce qu'on perd du personnel, on perd des machines, on perd du matériel, ça coûte beaucoup plus cher à l'entreprise. Et le but recherché, c'est pas de faire fonctionner la SNCF, ça c'est sûr. On ne fait pas marcher un train comme on fait marcher une voiture. On double pas un train comme on double sur une autoroute. Ça n'a rien à voir. C'est très compliqué. C'est très rigide. Enfin, c'est très rigide, oui, avec la sécurité et tout. Il faut mettre un conducteur sur chaque machine. Après, il faut des rails, il faut un sillon, comme ils l'ont bien montré, ils l'ont dit dans le film. Comme c'est pris, quand on connaît le métier, comme on voit comment ils vont partager la SNCF, on ne voit pas comment ils veulent faire marcher le train. Quoi. C'est complètement à l'opposé du bon fonctionnement des trains, quoi. Même de tous les trains, qu'ils soient de n'importe qui d'ailleurs. Hein. À partir du moment où on partage tout en morceaux, déjà c'est très compliqué quand il n'y avait qu'une entreprise. Enfin, à l'époque, moi, c'était qu'une entreprise. Mélanger le fret et tout, les conducteurs ils faisaient tout, les machines faisaient tout, c'était déjà très compliqué. Maintenant, des machines dorment dans un coin parce qu'elles sont au fret alors que les voyageurs ne roulent pas, il y a une machine qui dort et rien ne roule. Ou il y a même un conducteur qui ne travaille pas et parce qu'il est fret, il n'est pas voyageur, le train de voyageur ne roule pas, mais le conducteur fret à côté qui ne sert à rien. Nous, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le but de rechercher par la direction de la SNCF, enfin, ou par les politiques surtout.
Après les spectateurs et les spectatrices, question à Luc Joulet, l'un des deux réalisateurs de Cheminot. Vous pensez quoi du public qui a reçu ce film-là ?
Bon, je ne sais pas, on va attendre que les gens nous en parlent un petit peu, mais visiblement, il y a de l'émotion, il y a de l'étonnement, il y a surtout de l'émotion, et je pense que le cinéma, c'est d'abord ça, quel que soit... qu'on fasse de la fiction ou qu'on fasse du documentaire ou quel que soit le sujet qu'on aborde dans le documentaire. Il ne faut pas oublier que dans une salle de cinéma, on se retrouve ensemble pour partager des émotions. Ce n'est pas uniquement un parcours intellectuel, une réflexion individuelle. C'est finalement assez proche de ce que les cheminots nous disent de leur travail, quoi. Le cinéma et le train, ça se ressemble beaucoup, au-delà des aspects techniques, le rail. Je crois que ça pose les cheminots avec ce film-là. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné avec Sébastien, c'est de restituer de la manière la plus sensible qui soit leur parole. Et je crois que c'est une parole qui nous est adressée à tous et qui pose une question qui nous est commune. Quel que soit le métier qu'on fasse, quel que soit notre niveau de conscience et d'engagement, c'est dans quelle société on veut vivre et quelle est, à partir de là, la conception que l'on se fait de la relation à l'autre. Quoi. Et sur cette question-là, je pense que le cinéma et le train ont beaucoup à partager. C'est pour ça qu'on finit sur cette idée du transport en commun. Godard disait que le cinéma, c'est d'abord un transport en commun. Le train en est un, évidemment. Et voilà. Donc on est content qu'il y ait du monde aujourd'hui. On remercie les organisateurs de Vision Sociale d'accueillir le film aussi rapidement après qu'il ait été terminé. Et puis voilà, maintenant il nous semble que c'est un film qui même s'il parle d'une communauté professionnelle bien particulière, c'est un film d'abord qui parle à chacun d'entre nous, parce que la question du travail, du métier que l'on fait, elle est propre à chacun de nous.
Merci beaucoup et bonne chance à ce film. Vous avez d'autres projets de diffusion là, d'autres festivals, d'autres lieux où il est appelé?
De toute façon, le comité d'entreprise, outre l'engagement qu'il avait pris à produire le film, s'est engagé à le diffuser. Donc le CE va l'éditer en DVD, va le remettre à chaque cheminot en Provence-Alpes-Côte d'Azur, va organiser un certain nombre de projections sur la région, des projections qu'on veut avec eux le plus ouvertes possible. C'est pas... Un film, c'est pas pour se retrouver entre soi. C'est pas pour d'abord le regarder tout seul sur son home cinéma à la maison. C'est fait pour le regarder dans une salle, et dans une salle où on se retrouve à côté de quelqu'un qui nous ressemble pas forcément, mais avec lequel finalement on va aller à sa rencontre et à sa découverte à partir de l'émotion. Donc voilà, donc le CE va organiser des projections sur la région. Nous, de notre côté, on espère que le film ait un peu d'écho, peut-être, je ne sais pas. L'année prochaine, on va tous pouvoir, on va être invités à faire jouer la concurrence, à pouvoir emprunter des trains privés. Je pense que c'est une question suffisamment forte pour nous, pour la société, pour que peut-être des médias audiovisuels s'intéressent à cette question-là. Donc, si le film leur semble participer ou contribuer à cette réflexion collective, le film existe, il suffit de s'en saisir, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup et bonne chance à ce film.
Auditrice, auditeur de La Grenouille, vous allez avoir l'opportunité de découvrir le 19 juin le film Cheminot au cinéma Le Comédia de Miramas en présence des deux réalisateurs.
Ça, c'est c'est 12 pages du livre qui va sortir au mois d'octobre. Donc vous retrouvez d'autres jumeaux au Sénégal. Et ça, c'est une petite fille du Bénin qui a fait le même bonhomme.
Nous voici maintenant dans l'espace exposition de Vision Sociale où Gilles Porte, réalisateur, présente l'exposition qu'il a réalisée avec Juliette Robert, Cyrine Ibrahim, Malo, Valentin et tous les autres. L'idée a germé des cahiers de bonhommes que les enseignants font réaliser en maternelle. C'est grâce aux enseignants de l'école où vont leurs enfants que Gilles Porte et Juliette Robert ont, pendant 3 années consécutives, photographié les enfants de 6 classes de maternelle et récolté leurs autoportraits réalisés au crayon blanc sur papier noir. 500 diptyques, dessins photos ont été créés. D'autres portraits, réalisés selon le même protocole, avec des enfants rencontrés au Kenya, en Égypte, en Tunisie, en Moldavie et même au Canada, sont venus compléter l'exposition. Un tour du monde qui ne fait que commencer, grâce à l'arrivée autour du projet des ONG Solidarité Laïque, Clowns sans frontières et la Ligue des droits de l'homme. Cyrine, Ibrahim, Malo, Valentin et tous les autres a obtenu le soutien de la Commission française de l'UNESCO ainsi que le label Année européenne du dialogue interculturel 2008. Nous écoutons Gilles Porte.
9 fois sur 10, on ne se trompera pas. Mais peut-être qu'il voudra dire autre chose. Donc c'est juste, si on demande à l'enfant de nous expliquer son dessin, admettons que l'enfant accepte de nous le dire. Admettons que l'enfant ne soit pas autiste. Il y a des enfants autistes là-dedans. Alors, admettons tout ça. Admettons que l'enfant ait envie de vous répondre. Peut-être vous aurez un élément de réponse. Là, c'est une fille, elle me connaît, elle a envie de me parler, elle me raconte. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je dis attention, danger. Moi, quand on me dit un enfant à 5 ans, il faut qu'il ait fait ça. Pourquoi un enfant à 3 ans, qui fait 10 doigts sur une main, on dit c'est exceptionnel? pourquoi un enfant à 6 ans qui fait 6 doigts sur une main, on dit qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a toujours un problème quand un enfant de 6 ans vous fait 6 doigts sur une main? Pourquoi il faut voir des tableaux de Picasso pour retrouver 6 doigts sur une main? Ou Matisse, ou Calder, ou Miro? Pourquoi? Est-ce qu'un enfant qui fait 6 doigts sur une main, peut-être qu'il sait compter et qu'il a fait 6 doigts pour vous emmerder, peut-être? Et qu'il n'a pas forcément un problème, il a juste envie de vous emmerder. Celui-là, là. Pourquoi il s'est dessiné comme ça? Moi, je vois ce dessin, je suis français, je connais pas. Il est Inuit, il fait moins de 35 degrés dehors, je dis, il y a un problème, lui. Je dis, il y a un problème. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il s'est dessiné comme ça, j'ai un problème. Il est moyennement constitué, il a un problème mental, il est arriéré. Le seul truc que j'ignore, le seul truc que je vous dis là comme clé, qui peut-être est une clé, c'est que les Inuits, puisque c'est une Inuit, au Canada, ils font des repères dans l'Antarctique, qui sont des bonhommes en pierre, et qui mettent dans la banquise pour se repérer, et que c'est un bonhomme, elle passe tous les jours devant, et que peut-être elle s'est dessinée comme ça. Donc c'est juste des choses qui disent attention, peut-être que c'est pas ça qu'elle a voulu dire, mais. Voilà, donc c'est pour ça que je vais doucement avec les interprétations des dessins d'enfants.
Alors toujours sur les hauteurs de Cannes à la Napoule, le festival Vision Sociale continue ses programmations. Nous venons d'entrer dans la salle où va avoir lieu la première projection de la journée. Donc j'ai à côté de moi quelques personnes qui sont parmi les spectateurs et spectatrices et on va leur demander pour quelle raison êtes-vous sur le festival Vision Sociale ? Y venez-vous depuis de nombreuses années ? Comment l'avez-vous connu ?
Moi, c'est la première année. C'est parce que je suis militante de la CGT et que je suis accueillie par l'association Sudirail, qui est une association de cheminots. Voilà, donc c'est dans ce cadre que je viens.
Oui, moi aussi. Mais c'est la deuxième année que je viens à Cannes. Et l'année dernière, je m'étais un petit peu cantonnée dans le côté plus officiel du festival, c'est-à-dire Cannes Centre. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai découvert Vision Sociale et le festival et je suis emballée par la qualité des films et la qualité aussi des échanges qu'on peut y avoir. Et vraiment, j'encourage tous les gens qui peuvent faire le détour de venir voir un petit peu ce qui se passe ici.
Oui, parce que l'une de ces singularités de ce festival, c'est d'amener toujours, après chacun des films, une rencontre ou un débat avec soit les réalisateurs invités, soit leurs producteurs ou les distributeurs, avec le public que vous représentez.
Oui, c'est ça. Alors nous avons vu plusieurs films. D'abord un film sur les cheminots qui donc concernait directement nos partenaires puisque c'est avec eux que nous sommes venus dans ce festival. Ensuite, nous avons vu un film sur Cuba, sur l'histoire de l'esclavage à Cuba et des révoltes fin 18e siècle. Hier soir, nous avons vu aussi une série de courts-métrages très très intéressants avec de jeunes réalisateurs de qualité et des gens de la région qui nous ont expliqué un petit peu leur mission et puis leur militantisme à travers ces courts-métrages.
D'accord, donc ça veut dire que vous seriez prête à revenir sur cet événement et peut-être à inciter certains de vos amis à venir le rejoindre ?
Ah oui, on est tout à fait persuadé que c'est là qu'il faut être, quoi.
Ah bah c'est formidable. Même chose, même avis. C'est très intéressant. Et là, ce que l'on regrette, c'est que ce n'est pas suffisamment popularisé et que bon, les grands médias ne s'intéressent pas à ces événements. Parce qu'on a vu des films merveilleux et qu'on ne reverra pas ni au Gaumont ni à l'UGC. Voilà.
Bah écoutez, il faut espérer que des distributeurs courageux prendront ces films et les mettront sur les écrans de France. En tout cas, concernant les médias, il y a une radio qui est là, qui est à Marseille, qui va rendre compte de cet événement. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il mérite tout à fait sa place, en dehors des grandes programmations festivalières que Cannes propose et des autres événements. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente projection. Bonsoir, nous venons d'assister ici à Vision Sociale au film d'un très jeune réalisateur venu du Mexique et amené par l'ACID. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'une des responsables de l'ACID et vous proposez comme tous les ans à Cannes un certain nombre d'œuvres cinématographiques. Pouvez-vous raconter pour les gens de Radio Grenouille ce qu'est l'acide et quelle est la vocation qui est la vôtre ?
Alors l'ACID, tout d'abord, ça veut dire l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. C'est une association de cinéastes qui existe depuis maintenant 17 ans et qui existe pour défendre le cinéma indépendant. Donc maintenant, depuis 15 ans, nous programmons des films à Cannes. Nous fêtons donc les 15 ans cette année. C'est une programmation d'une dizaine de films qui, pour la plupart, sont sans distributeur. Le but étant de leur donner la meilleure vitrine possible pendant le festival et de leur permettre de trouver un diffuseur, un distributeur à l'issue des projections.
Ce qui veut dire que vous soutenez évidemment la création française, les jeunes auteurs, les jeunes réalisatrices, réalisateurs, mais pas que ça, puisque là, en l'occurrence, vous nous avez permis ce soir de voir le film de Nicolas, un film qui vient du Mexique.
Tout à fait. Donc, le film de Nicolas Pereda, Perpetuum Mobile, est un de nos grands coups de cœur pour le festival. On a tous eu des coups de cœur, évidemment. Alors, ce sont les cinéastes de l'Acide qui programment. Donc, il y a 16 cinéastes qui ont visionné plusieurs centaines de films. Le choix a été difficile, mais on a fini par se mettre d'accord sur une très belle programmation d'une dizaine de longs métrages, dont ce long métrage mexicain. Donc nous avons effectivement une programmation à la fois de long métrage français et évidemment de long métrage étranger.
Et pour l'essentiel, enfin moi qui suis un petit peu l'Acide, les auditeurs connaissent ou ne connaissent pas, c'est vrai que cette structure de défense du cinéma d'auteur permet effectivement à ceux-ci d'être ensuite bien visibles, puisque j'ai souvenir d'un certain nombre de films, que ce soit Oublié chez N, par exemple, de Valérie Mignotteau, ou bien un fils d'Amal Bedjaoui, qui en arrivant à Cannes n'avait pas de distributeur, et qui ensuite ont trouvé le chemin, et ô combien avec beaucoup de succès, des salles obscures. Donc ça, c'est vraiment ce travail-là que vous accomplissez.
Oui, effectivement, chaque année, et c'est très gratifiant pour nous, nous avons la chance donc de programmer ces films et de les voir mener une très belle vie par la suite. C'est le cas notamment des films que nous avons présentés l'année dernière. Il y a Léger tremblement du paysage de Philippe Fernandez qui a trouvé un distributeur et qui sort le 26 août prochain. Et nous espérons évidemment que le film de Nicolas Pereda suivra le même chemin.
Ben, on va le souhaiter à Nicolas. Moi, je ne parle pas l'espagnol. Muchas gracias. On peut peut-être parler un petit peu en anglais. I was so surprised and very happy of this picture because for me it's a very emotional moment of cinema and also of life of people. What do you want to express with this picture?
Many things. So mainly is a relationship movie, I think. It's a relationship between a mother and son and the surroundings of the son. And I want to talk about emotional distance between people that live with one another, about how the city affects people's relationships, and how people have a hard time relating to the people they're closest to. I mean, that's in a very simple way of saying. I mean, also, I think the way of the contemporary jobs are very draining.
Pour reprendre pour l'essentiel, donc ce qui l'intéressait, c'était de montrer la distance dans les relations entre les personnages qui sont pourtant des personnages qui sont censés être proches. Il le montre dans certains plans. Il l'a expliqué tout à l'heure. Dans les moments de silence, les personnes sont sur les mêmes plans, tandis que dans les moments de dialogue, ce sont des plans séparés, par exemple. Et il a voulu montrer aussi la façon de travailler de ces gens-là. Ce sont des déménageurs, donc la lenteur parfois des journées, leur ennui, où on attend beaucoup, etc.
It's okay. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci vraiment à tous les deux d'avoir été là, d'avoir rencontré le public à une heure assez tardive. Je souhaite vraiment beaucoup de chance à ce film. Merci à l'Acide de l'avoir présenté. Une projection bientôt sur Cannes ou est-ce que on a assisté à une deuxième ?
On a assisté à une deuxième. D'accord. On a eu une très belle projection hier soir aux Arcades, salle comble. On a dû malheureusement refuser des gens à l'entrée. Formidable. Et on va reprendre le film à Paris en automne prochain lors de la reprise de la programmation cannoise de l'Acide.
Vous connaissez déjà le nom de la salle à Paris qui va le programmer ?
Le cinéma des cinéastes.
Ah ben voilà. Donc on parle bien de cinéma, on est toujours à Vision Sociale. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance Nicolas avec votre film. À très bientôt. Au revoir. Merci.
Ça, c'est très récent, c'est-à-dire qu'avant, ça pouvait se faire sur un an. Mais aujourd'hui, il y a tellement de films, la consommation est telle qu'il y a une rotation très rapide des œuvres. Et grosso modo, le premier mercredi, pour les grosses machines, on est fixé. Et la plupart des films restent 3 semaines à l'affiche, pas plus. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, puisque des gens qui n'auraient pas accès au film tout de suite ne verront peut-être jamais.
Thierry Lunas, jeune distributeur indépendant, vient rencontrer le public et inaugure ainsi les 2 rendez-vous consacrés au métier du cinéma, initiés par le festival Vision Sociale.
Donc c'est un métier qui est un peu fragile et je pense qu'il est en train de se réinventer d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que les gros distributeurs qui ne font que du marketing autour des œuvres, eux, je ne sais pas s'ils vont rester. Parce que encore une fois, à mon avis, il y aura de moins en moins d'acteurs. Il y aura une concentration très importante économique. Sur les sites internet, on verra d'abord les grosses productions et ce sera très difficile finalement, à moins de connaître précisément, d'avoir accès ou d'être intéressé par une œuvre qui sera très loin. Malgré tout, je pense qu'il continuera à avoir une certaine cinéphilie sous le mode communautaire, des gens qui ont une curiosité, qui vont s'inscrire dans des réseaux où la question ne sera pas de savoir si on voit tel ou tel film, mais s'inscrire dans un groupe qui fait un peu de programmation, qui propose à chaque fois des œuvres. Si vous aviez votre ciné-club, vous feriez appel, vous programmeriez certains films et les gens auraient envie de les voir parce qu'ils sauront que ça fait partie d'une ligne éditoriale qui les intéresse. Et je pense que moi, mon métier de distributeur va être de plus en plus d'expliquer aux gens pourquoi tel ou tel film est bien et de vendre et de proposer les films aux différents lieux sous ce mode-là.
Je vais prendre un verre d'eau, je suis bien. Un Perrier.
Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour, bonsoir à cette heure-là ?
Oui, bonsoir. Donc, je suis Thierry Lunas, je dirige Capricci Film, qui est une société de distribution et de production. Voilà.
Donc vous venez d'être invité par le Festival Vision Sociale à une rencontre avec les gens qui suivent cet événement depuis qui a démarré déjà samedi, sa 7e édition. Content d'avoir été là et d'avoir répondu aux questions avisées des spectateurs.
Moi, je suis très content parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord avec les spectateurs qu'on doit parler. Et c'est de deux qu'une solution pour permettre à des films d'auteurs aujourd'hui, pour leur permettre de continuer à exister, ça passera par le spectateur. Et donc voilà pourquoi j'étais très content aujourd'hui d'être dans celui-là, qui est un lieu d'abord très connu pour l'excellence de son travail et pour son soutien à plein d'œuvres.
Bien sûr. Comme d'autres festivals, effectivement, d'avoir la possibilité d'aller exprimer face à des spectateurs ce que sont les métiers du cinéma, puisque c'est une première cette année ici à Vision Sociale. Dans 2 jours, on aura un rendez-vous avec un ingénieur son. Donc de pouvoir exprimer face à des spectateurs comment ça fonctionne le cinéma, qu'est-ce que c'est cette industrie, mais aussi qu'est-ce que c'est le travail de gens passionnés comme vous, distributeurs, qui œuvrez à différents niveaux de la chaîne pour permettre à un spectateur de voir un film sur les écrans.
Moi, je pense que c'est effectivement capital que les gens comprennent, en tant que citoyen déjà, comment fonctionnent les différentes étapes, métiers de la culture et donc du cinéma, pour mieux... comprendre parfois la difficulté, parfois la fragilité dans laquelle se trouvent certains films. Mais au-delà de ces côtés un peu défensifs ou d'être soignant, je pense que aussi c'est intéressant pour mieux comprendre aussi les films eux-mêmes, de voir, de connaître un petit peu techniquement ce qui les entoure, parce que le cinéma, quoi qu'il arrive, reste quand même une industrie technique, c'est-à-dire où les questions de la fabrication des œuvres font partie des œuvres mêmes.
Eh bien, merci Thierry. Alors, à la jeune maison qui a 10 ans quand même. Hein.
Voilà. 10 ans, c'est pas très vieux. Je sais pas par combien il faut multiplier pour les sociétés de cinéma, comme pour les chats, mais c'est pas très vieux. Mais j'espère qu'on va faire beaucoup de choses encore.
L'essentiel étant de rester jeune et d'avoir le goût de la découverte.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le regard sur la directrice qui mène son collège à la baguette et qui se laisse pas faire et qui en fait après il la croise au shopping et elle a des couettes et donc c'était toujours ça, c'est-à-dire quand on est ado on fantasme vachement sur la vie des adultes, on imagine qu'ils ont la toute puissance, qu'ils font des trucs, etc. C'est les profs, comme ils sont vecteurs d'un savoir, on se dit qu'ils doivent être très très intelligents ou ils doivent faire des trucs, quelle est leur vie, etc. Donc c'est pour ça que je voulais ce truc un peu sur les profs, ils sont un peu bizarres, j'essaie de les rendre un peu évocateurs de choses.
Riyad Satouf, jeune réalisateur français, rencontre le public de Vision Sociale dans la salle où vient de se dérouler la diffusion du film sélectionné par la quinzaine des réalisateurs et présenté ici à la Napoule, Les Beaux Gosses.
Ouais, voilà, c'est justement le côté de... Ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y avait eu un livre qui est sorti et qui est très intéressant et qui s'appelle « Ce que je ne peux pas vous dire ». C'est des témoignages de collégiens dans l'anonymat qui se confient à des journalistes en racontant des histoires de leur vie. Et il y avait une histoire comme ça, où c'était un ado qui racontait qu'il était en sport et que dans le terrain de sport qui était à l'arrière de son collège, il y avait des immeubles qui bordaient le collège et il y avait une femme qui s'était mise à sa fenêtre en vue de se suicider. Et qu'en fait, la prof de sport était paniquée, était allée à toute vitesse chercher les secours, à prévenir les policiers. Et pendant le temps où elle n'était pas là, les élèves de sa classe s'étaient mis à crier à la femme « Saute, saute, vas-y, ta vie vaut rien, etc. » Finalement, elle s'était suicidée, elle était tombée au milieu de la cour. Et donc là, les élèves, il y en avait plein qui étaient morts de rire, etc. Et le gamin qui raconte cette histoire, il dit « Mais moi, j'ai rigolé. » Et quand je suis rentré chez moi, le soir, quelques jours après, je me sentais pas bien, j'arrêtais pas d'y repenser tout le temps à ce truc-là. Et en fait, c'était vraiment pour montrer qu'ils n'ont pas conscience forcément de ce qu'ils font et de la réalité des choses. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tellement égocentriques dans leur système qu'ils ne voient pas l'énormité du truc, ils ne pensent qu'à eux tout le temps. Et moi, je sais que quand j'étais ado, j'étais très sensible pour des trucs sans aucun intérêt et j'étais très dur pour des trucs horribles, quoi. Et je voulais montrer justement, c'est à ce moment-là que le monde réel entre dans le film en dehors du monde des ados. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il s'est passé quelque chose de très très grave, et ils s'en foutent complètement.
S'en foutent complètement parce qu'ils sont concentrés sur eux, ils l'ont échappé belle, c'est pas en fait, comme le prof tombe, on va pas les accuser d'être voyeurs.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux en fait.
Intervention dans la salle, Dan Desandrini, responsable du cinéma à la Commission nationale CCAS et qui mène fréquemment les débats.
Pourquoi ce titre de film, Les Beaux Gosses ?
Parce que c'est un titre qui a deux sens. C'est-à-dire que Les Beaux Gosses, alors si vous tapez Les Beaux Gosses dans Google, sur Internet, déjà il y a 800 millions de pages qui s'appellent Beaux Gosses, parce que c'est un terme que les comédiens du film d'ailleurs utilisaient vachement sur le tournage pour se définir les uns les autres dès qu'ils avaient un peu la classe. Ils disaient « Ah, beau gosse, ah, quel beau gosse !» C'est pour dire qu'ils sont fiers d'eux, etc. Et aussi, bon, donc dans le film, comme ils sont un peu moches et pas du tout des beaux gosses, il y avait aussi le sens littéral de la phrase qui dit que c'est des beaux enfants et que malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément, comme on pourrait imaginer, des stars de la mode, etc., je les trouve quand même beaux dans leurs imperfections et dans leur côté... laid, quoi, enfin que leur particularité physique, toutes leurs particularités de toutes les énormités qu'ils font, je les excuse en fait d'un certain côté, c'est quand même des beaux enfants.
Cela dit, ça fait plaisir dans cette société normative de voir quand même, bon voilà, la vraie vie, quoi. On n'est pas tous beaux.
Il avait beaucoup de mal à s'énerver parce qu'il est un peu, c'est un grand dadais un peu.
C'est un peu ça, parce que Léo, souvent, on a ça, quand il peut jouer l'énervement, on a l'impression qu'il est...
Enfin, voilà. Et en même temps, j'aimais bien le fait qu'il joue un peu de travers quand il râle sur sa mère, parce que d'un certain côté, il surjoue le fait d'être en colère, alors qu'il est en train de... Il est très théâtral, parce qu'il n'ose pas non plus lui dire des vrais trucs. Il essaye un peu de lui montrer qu'il n'est pas content, qu'il en a marre, etc., machin... En même temps, même sa mère, elle ne réagit pas, elle le trouve trop mignon en train de faire son petit scandale dans la salle de bain.
Et vous avez été heureux.
Bonsoir Riyad Satouf, on vient de voir dans cette salle de vision sociale votre premier film qui vient d'être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Important de préciser que vous êtes un homme qui vient de la bande dessinée, mais peut-être pas que de ça d'ailleurs, puisque le sujet de votre film c'est les jeunes et le film est assez épatant. On a là toute une série de garçons et de filles qui se débattent dans leur vie quotidienne. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
Oui, en fait, j'ai voulu faire un film sur le monde secret des garçons à l'adolescence. Les garçons entre eux, leur façon de voir le monde, et surtout les garçons, souvent ingrats physiquement, qui se retrouvent un peu exclus des histoires sentimentales, de la classe, de la vie en général même. Et, enfin, les garçons qui ne se font pas trop remarquer, qui sont un peu sans histoire, en fait. Voilà.
Alors il y a aussi des personnages qui gravitent autour de ces adolescents qui sont en devenir, bien évidemment, et dans leur vie tout court et dans leur sexualité, puisqu'il est beaucoup de questions, là en l'occurrence, de leur sexualité ou future sexualité, de ces découvertes de l'émotion, de la tendresse, du plaisir, du désir. Il y a toute une série de personnages, en particulier la mère de l'un d'entre eux, Hervé, qui est campée par une magnifique comédienne.
Oui, c'est par Noémie Lvovsky. Voilà, et qui joue le rôle de la maman intrusive et castratrice.
Oui, c'est vraiment un rôle qui lui va à merveille, elle est vraiment extraordinaire. On y voit aussi Emmanuel De Vos, qui est toujours épatante, évidemment.
Oui, oui, il y a Emmanuel De Vos, il y a Irène Jacob, et il y a aussi la participation de Valeria Golino, qui est une actrice italienne que j'adore.
Et que l'on voit en femme vampe quelque peu. Voilà, mais en tout cas, j'engage vraiment les auditeurs de Radio Grenouille à venir découvrir sur les écrans, parce que je crois qu'il sort le
10 juin 2009, là, dans 15 jours.
Voilà, le 10 juin prochain, donc ce film qui vient de sortir et qui vient d'être présenté à la quinzaine des réalisateurs ici à Cannes, 62e édition du festival, et à la 7e édition de festival Vision Sociale. Merci beaucoup Riyad,
merci,
bonne soirée et bon prochain film. Il est déjà en train d'être écrit.
Oui, j'ai déjà des idées, mais...
Bon. On va vous suivre de près. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
21 mai, nous sommes toujours sur les hauteurs de Cannes au festival Vision Sociale et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurent Lafranc, ingénieur du son, dans le cinéma évidemment. Alors Laurent, une invitation à Vision Sociale, c'est une première?
À Vision Sociale, oui, je ne savais pas que ça existait.
Ah, mais c'est bien, donc vous allez découvrir. Alors, une question toute simple. Qu'est-ce qui motive un homme à devenir un jour un homme du son et à planter ses bonnettes et ses perches dans un studio de cinéma? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire, dans votre vie, pour que vous ayez cette passion du son?
Ah, c'est une question qu'on pose souvent et à laquelle c'est difficile toujours de répondre. Moi, je crois qu'il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être dans les souvenirs d'enfance, le rapport au son, c'était déjà le rapport de l'écoute sans voir, c'est-à-dire d'écouter le père qui rentre le soir à la maison, d'écouter les bruits du matin, d'écouter et d'essayer de savoir ce qui se passe sans voir, et donc de voir avec les yeux, moi ce que j'appelle ouvrir les yeux de ses oreilles. Et puis un plaisir du cinéma, une envie de participer à cet art, un plaisir de garçon de manipuler les petits objets techniques. J'ai fait un peu de photos aussi, mais la machine enregistreuse était une machine qui m'a toujours touché. Voilà.
Oui. Et donc ça veut dire que j'imagine vous êtes ingénieur du son depuis combien d'années? Votre parcours, ça a été de travailler d'abord sur des films indépendants avec de grands ingénieurs du son. Comment êtes-vous formé? Sur le tas, en faisant une école?
Je n'ai pas fait d'école de son typiquement. Je n'ai pas eu la chance d'être assistant de grands ingénieurs du son. J'ai eu la chance d'en rencontrer. Mon parcours, mon approche a été, je crois, mon apprentissage, qui est un apprentissage qui ne se termine, qui ne s'arrête jamais de toute façon, a été peut-être plus long que si j'avais été assistant et donc pouvoir observer les façons de travailler. Mais ça m'a obligé à réfléchir aux façons de faire et aux façons de penser le son. Moi, j'ai, comme je le dis souvent, enfin, j'ai toujours bricolé les enregistrements. Et puis, j'ai fait des études techniques. J'ai supporté l'école jusqu'à un DUT d'électronique qui m'a pas permis de, spécialement d'être un grand théoricien, mais tout au moins d'avoir, de ne pas avoir peur des machines. Mmh. Voilà. Ça, c'est surtout ça qui est intéressant, et d'avoir le sens aussi de l'approximation, c'est-à-dire que le travail de prise de son sur le plateau est un travail qui peut être toujours frustrant, parce que entre ce qu'on souhaite et ce qu'on a, il y a toujours un monde, et il s'agit d'avoir aussi le rapport aux ordres de grandeur, pour savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, tout en conservant justement, quand on fait du cinéma, la liberté aux autres postes. Et puis il y a eu une rencontre importante pour moi, c'est la musique électroacoustique, c'est-à-dire que à l'âge de 15 ans, en cherchant l'entrée de derrière des théâtres, j'ai rencontré les gens du GMEM à Marseille qui préparaient là un concert. J'ai rencontré celui qui m'a accueilli dans le métier, qui s'appelle Lucien Bertolina et qui est donc un ami de plus de 30 ans maintenant. Et j'ai donc pu approcher la question du son comme la question des matériaux sonores et des matériaux musicaux, c'est-à-dire donc la musicalité d'une situation concrète, la musicalité des voix, la musicalité des bruits de la vie. Et sur l'apprentissage, moi je dirais que je n'ai jamais été à l'école de son, je n'ai jamais reçu d'enseignement typique, mais il y a un moment, c'est-à-dire la vie des fois est faite de petits instants. Mais il y a un moment qui a, je crois, déclenché beaucoup. C'est un jour où j'étais tout môme, j'avais entre 15 et 16 ans. Je parlais avec Lucien dans les locaux du GMEM. Et je me suis aperçu qu'il s'était arrêté de faire quoi que ce soit et qu'il me regardait et qu'il m'écoutait. Et quand on découvre que quelqu'un s'arrête et vous écoute, on se sent un petit peu obligé de réfléchir à ce qu'on dit et de faire des phrases. Et en faisant des phrases, on commence à apprendre à parler. Et en commençant à parler, on commence à apprendre à écouter, puisque il n'y a pas de parole sans écoute. C'est la raison pour laquelle les sourds sont muets. Des fois, on l'oublie, mais un sourd pourrait parfaitement parler. Le problème, c'est que malheureusement, il ne peut pas s'écouter. Et donc, je crois que ce moment-là a guidé énormément de mon rapport à l'écoute. Le cinéma, c'est fait de déréalisation et de ré-réalisation. Le cinéma, c'est surtout pas le réel. C'est-à-dire qu'on part d'une situation et je crois que le réel va devenir réel dans l'esprit du spectateur. Donc il y a une nécessité dans la fabrication d'un objet, on va dire cinématographique, comme je crois dans toute œuvre d'art de toute façon, à défaire la réalité et à en proposer une que le spectateur va refaire exister. Je pense que le récit cinématographique, ce sont des allers-retours permanents entre les différentes composantes de l'œuvre cinématographique. Donc c'est une course de relais, un petit peu. Si vous faites un plan sur lequel le dialogue donné par l'acteur va être complexe, je pense qu'il faut que ce plan soit le plus simple possible. Parce que dans ce moment-là, ce qui va être important, c'est le son, je dirais même l'information de la voix. C'est pas la peine non plus de mettre 36 choses autour. Si c'est l'action, il faut que le dialogue soit simple. À des moments, c'est la musique qui va prendre. Chacun va prendre l'un après l'autre. Et donc, si dans un film, on dit qu'elles sont formidables, je crains qu'il y ait quelque chose de raté. C'est un grand, grand plaisir pour moi, ces occasions de parler d'une passion et de transmettre ce rapport-là. Parce que d'abord, j'aurais bien aimé, quand j'étais gamin, qu'il y ait des gens qui viennent et qu'on rencontre. Et puis, je trouve que le travail du son et de l'écoute a une vraie fonction sociale et qu'actuellement, il y a un vrai, vrai, vrai souci d'écoute au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne sait plus parler, on ne sait plus écouter, on n'a plus le plaisir, le goût du son. Et ça doit se retrouver parce que la paix sociale passe en grande partie, je pense, par l'écoute des uns et des autres.
C'est donc Laurent Lafranc, ingénieur du son, qui clôt par cette belle phrase ce documentaire sonore que nous vous avons proposé sur la 7e édition du Festival de cinéma Vision Sociale, qui s'est tenu à Cannes-la-Napoule entre le 16 et le 24 mai 2009. une manifestation que nous avons souhaité vous faire découvrir en cette période où souffle un vent de tempête économique et sociale, car comme le souligne Évelyne Valentin, présidente de la CCAS EDF-GDF à l'initiative de ce festival, le cinéma puise dans son rôle social une force vivifiante, optimiste. Il est support de résistance quand il nous restitue des réalités quotidiennes et nous invite à regarder en face, sans complaisance, sans a priori, mais surtout sans mépris. Il n'oublie pas l'humour, il nous apporte également du plaisir. Au générique de fin de cette réalisation sonore, signée Michel Philibert, merci à toutes celles et ceux que nous avons rencontrés, interviewés et avec qui nous avons partagé tant de moments à Cannes-la-Napoule. Merci également à Amandine Tamayo, chargée de mission événementielle à la délégation régionale CCAS PACA, à Géraldine Gans, l'attachée de presse du festival Vision Sociale, à toute l'équipe de la radio Grenouille, à l'association MPPM et au festival Reflet, et enfin à Christian Noël du studio Cactus, qui a permis le montage et le mixage de ce sujet. Bonne écoute à toutes et tous sur la suite des émissions de la Grenouille, et surtout, allez au cinéma. À bientôt, au revoir !